Ce soir, sur Campus Grenoble.
90.8.
Nous ferons ce qui est interdit.
Nous irons ensemble à la buvette.
C'est l'apéro.
Phonie.
L'exception radiophonique.
L'apérophonie.
De la culture.
Et de la musique.
Au shaker et à la cuillère.
Campus Grenoble 90.8.
Thank you.
Bonjour, bonjour, vous êtes dans l'apérophonie sur Radio Campus 90.8. Aujourd'hui, nous recevons avec bonheur le pianiste Pierre-François Blanchard qui vient de sortir en février 2024 chez les Rivières Souterraines, l'autre distribution, un disque en duo avec le clarinettiste Thomas Savy, dont nous venons d'entendre le premier titre intitulé « Backtrack ». L'émission a été enregistrée un petit peu en avance car tous les deux sont en concert gratuit à 18h30 aujourd'hui au musée de l'Évêché à Grenoble et je ne peux que vous engager à y aller. Il est encore temps et nous réécouter pour une fois en podcast. Pierre-François Blanchard, bonjour.
Bonjour à vous.
Alors j'ai tenu à débuter par un extrait de votre disque parce que ce qu'on m'a présenté comme un disque de jazz, je voulais que les auditeurs puissent l'entendre parce que votre esthétique pour moi, elle ne correspond pas à ce que je pense du jazz. Du coup, si je prends par exemple Tempête dans votre disque, pour moi c'est en droite ligne de l'écriture française du début 20e, surtout le début. Et du coup, je voudrais que vous nous présentiez brièvement votre parcours, votre formation et surtout ce qui vous a amené à vous dégager de ces clichés du jazz.
Oui, alors le parcours, il est vraiment empreint de beaucoup de rencontres. Je crois que je suis avant tout musicien et compositeur, et ma grande famille c'est le jazz, mais je suis aussi passé par la chanson avec Pierre Barou, que j'ai eu l'immense honneur d'accompagner. Je suis devenu le pianiste d'Archie Shepp, qui pour le coup lui est vraiment un grand grand monsieur de l'histoire du jazz dans son quartet en 2016, et on continue de jouer d'ailleurs encore aujourd'hui. Je suis passé par la musique de théâtre, où j'ai composé aussi pour la compagnie Icar, du temps où j'habitais à Saint-Nazaire. J'ai eu plein de formations de jazz, j'ai beaucoup travaillé avec Raphaël Imbert, qui est vraiment mon tonton d'âme, mon grand frère.
Assez inclassable lui aussi. Hein.
Extraordinaire, absolument saxophoniste, mais qui a une vision vraiment sur la musique qui, rien que de vous en parler, ça m'émeut. Et on a fait beaucoup d'aventures ensemble, et justement de choses qui croisent. Qui croise en fait les styles et les gens. Un des derniers, c'est Invisible Stream, le disque avec Jean-Guyane Queyras, qui est vraiment un immense violoncelliste classique. Puis on a essayé de chercher les courants invisibles entre la musique créole, classique, jazz et ses compositions. Je crois que je me suis toujours reconnu là-dedans. Et je crois vraiment que ça n'engage que moi, ce que je vais dire. Hein. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, les auditeurs, mais pour moi, être jazzman, c'est un geste en fait. Hein. C'est un geste artistique, beaucoup plus qu'un style. C'est aussi beaucoup ce que pouvait dire même Archie, c'est-à-dire que dès lors qu'on pose un mot dessus, ça veut dire que le style est déterminé, ça ne veut pas dire pour autant qu'il est mort, hein. Il peut être très vivant. Il y a des gens qui jouent le bop extraordinairement bien aujourd'hui, mais simplement je crois que c'est vraiment un geste d'improvisateur. Et puis moi, dans mon parcours, j'ai aussi beaucoup étudié l'écriture classique, ce qui a été vraiment une révélation. Ça m'a un peu mis tout le monde ensemble, notamment avec Jean-Michel Bardez, qui est un élève de Messiaen, vraiment un type extraordinaire. Et en fait, quand je me suis mis à écrire sans me poser de questions, ce qui est venu, c'est ce qui est venu. Et c'est vrai que ce que vous dites est très très juste, c'est-à-dire que c'est peut-être même plus empreint de musique française classique que d'une écriture qu'on pourrait qualifier de jazzistique, quoi. Donc c'est en plein dans le mille.
Et du coup, moi, c'est en fait, j'ai vu un peu sur votre formation que vous aviez fait l'école de jazz à La Haye, c'est ça? Et alors, ce que j'aimerais savoir, si c'est un cheminement, c'est-à-dire petit à petit, vous avez basculé de vos études classiques aux études jazz et vos rencontres ont fait que vous avez continué à cheminer et vous êtes arrivé à cette esthétique actuelle qui est la vôtre, qui est extrême. Moi, je la trouve très reconnaissable.
Merci.
Mais vraiment, par son métissage, par ce choix de métissage très fort. Et puis, c'est un mélange de styles. Des fois complètement impromptu, on ne s'y attend pas du tout, et ça fonctionne, de mon point de vue, ça fonctionne très bien. Et, ou si c'est, vous avez décidé à un moment donné, je romps avec certains clichés ou certains styles parce que j'ai plus envie. Et voilà, si ça s'est fait par cheminement ou par rupture, en fait, pour en arriver là.
Non, c'est vraiment un cheminement qui se fait même presque malgré moi. Pour moi, en tout cas, l'écriture, c'est... je laisse venir vraiment ce qui vient. Et donc, je crois que vraiment, l'écriture, c'est pas autre chose qu'une redite de toutes les choses qu'on a assimilées, bien malgré nous d'ailleurs, tout au long de notre parcours. Et c'est vrai que comme j'ai fait plein d'études classiques au début, j'ai étudié l'écriture classique beaucoup plus tard, et en même temps j'ai vraiment joué le jazz toute ma vie, et c'est par ça que je voulais commencer, pour répondre à votre question. J'ai entendu du blues à la radio à 7 ans, et j'ai dit « Maman, papa, je veux faire ça ». Bon, c'était pas possible, parce que ça n'existait pas. Et donc, vous voyez, souvent la vie décide pour nous, et on m'a dit « Non, tu joueras pas du blues, tu vas jouer du Mozart, quoi ». Enfin, tu vas essayer. Et donc, c'est ce qui m'a fait, bien malgré moi. Et puis, en fait, j'en suis très heureux. Donc, je crois vraiment que c'est un mélange de tout ça. Mais c'est pas du tout une position qui est prise en disant non, moi je.
C'est pas un acte juste... engagé, c'est pas juste là, voilà, ça arrive.
Je m'engage avec ce qui vient et je crois ne pouvoir être honnête et engagé que justement avec la musique qui est la plus sincère et honnête que je puisse défendre, vous voyez. C'est-à-dire que sinon, je vais me sentir. Enfin, pour moi, il n'y avait pas d'intérêt d'essayer d'écrire comme, ou, par exemple, dans le style de ce qu'on peut faire avec Archie. Mon Dieu, quelle légitimité il y aurait à faire ça. Pour moi,
alors,
il y en a pas.
Justement, j'ai entendu Prison, là. Ce que vous avez fait avec Marion Rampal, Archie Shep. Alors ça, c'est extrêmement étonnant. J'invite tout le monde à aller écouter. Je décris pas, c'est-à-dire c'est indescriptible, mais ce que je trouve très fort dans cette musique-là, c'est que l'atmosphère, elle est là tout de suite. Et que du coup, ça fonctionne. En fait, de mon point de vue, ça fonctionne.
Ça peut être un peu une métaphore, prison. C'est-à-dire que l'on avait travaillé avec Marion à l'époque sur les liens invisibles entre le spleen, qui était vraiment la plus belle des tristesses, et de l'autre côté de l'océan, en même temps le blues. Et on s'est dit, mais en fait, là, il y a une parenté invisible qui est très nette entre les deux styles. Et donc, on découvre cette mélodie de forêt, et puis évidemment sur les mots de Baudelaire, de Verlaine c'est à chaque fois, pardon, Verlaine. Le ciel est par-dessus les toits, si bleu, si calme, extraordinaire. Et on se dit, mais en fait, c'est du blues. Et donc, on invite Archie qui dit, on peut faire le blues en entrée. Et on s'est dit, c'est fou, vraiment, ça fonctionne, quoi. C'est la même histoire.
Oui, ça fonctionne, ouais, tout à fait. Et du coup, puisque vous êtes aussi compositeur, dans votre disque, que je n'appelle toujours pas disque jazz, j'y arriverai pas, Alors, je vous ai dit tout à l'heure en aparté que je me demandais s'il y avait encore de la musique improvisée puisque ça semblait très écrit. Et votre réponse a été de me dire, en fait, on improvise tout le temps. Mm-hmm. Donc, j'aimerais que vous m'expliquiez comment vous faites pour créer ces morceaux sur ce disque. En fait, quel est votre process? Oui,
en fait,
votre process, en fait.
La ligne est la suivante. En fait, on s'est dit, il n'y aura pas de solo avec des solistes, le moins possible. Il y aura une tentative de continuité de l'écriture. C'est-à-dire... se dire, on va faire de la variation sur ce qui est écrit. Donc, c'est vrai que ce que vous dites est très juste à nouveau, c'est-à-dire que c'est très écrit. Tout ce que vous entendez sur les débuts de morceaux, c'est vraiment quasiment de l'écriture classique, c'est très ouvragé, très précis. Et l'idée, c'est qu'on essaie de prolonger en improvisant l'écriture. On prolonge les lignes.
D'accord.
Et pour vraiment mettre une sensation de confusion, et la première fois que vous êtes la seconde personne qui me dit ça, et la première, lorsqu'elle me l'a dit, j'étais extrêmement vexé. Je me suis dit, non mais c'est incroyable, on improvise tout le temps, comment ça se fait? Et en fait, non, c'est le plus beau des compliments que vous me faites. Parce que ça veut dire que peut-être on a réussi à donner une sensation où on se dit, mais ils improvisent ou ils n'improvisent pas là? En fait, on ne sait pas, on ne sait plus.
Et donc, voilà. On sent la bascule, mais c'est vraiment très ténu de mon point de vue.
Ça
très fonctionne
heureux.
Très très bien en fait.
C'est le plus beau compliment qu'on puisse nous faire à tous les deux, c'est vraiment d'entendre ça. C'est ce qu'on essaye vraiment de faire chaque concert. Donc dans quelques heures, on va essayer d'y retourner.
J'aimerais bien y aller et je ne peux pas. Du coup, on va faire une petite pause et on va écouter une petite pièce qui est toujours dans ce disque qui vient de sortir, enfin qui est sorti en février. C'est Asmara, c'est une toute petite miniature. Bien sûr, Radio Campus 90.8. On vient d'écouter Asmara, tiré du disque Puzzle de Pierre-François Blanchard. Et donc, ça a été quoi la genèse de ce disque?
Alors, la genèse de ce disque, principalement, ce sont des pièces composées pendant le confinement. Alors, vraiment, voilà quelque chose qui est original. C'est à peu près tous les musiciens qui racontent la même histoire. Mais je dois vraiment dire que pour moi, ça a été une révélation, dans le sens où c'est un peu gonflé ce que je vais dire, mais c'est la vérité. J'ai compris que je pouvais même peut-être ne plus être pianiste. C'est-à-dire que ce qui faisait foi, on pourrait utiliser ce mot-là, en moi, c'était en fait l'écriture. Et comme le monde s'est arrêté de tourner, qu'on avait la chance folle d'être en France, parce que ailleurs c'était moins drôle, je pense, ben, j'ai pu accéder à ça. Donc j'ai écrit, j'écrivais un morceau par jour pendant 3 semaines. C'était complètement... Et donc ça a été une révélation. Et je me suis dit, mais voilà, en fait, le lien, je dirais, à l'intériorité, là c'est très égoïste, c'est l'écriture. Et puis ensuite, une fois que les morceaux ont été écrits, quelques-uns qui sont un petit peu plus anciens, mais pas beaucoup. J'avais rencontré Thomas Savy au Salon Idéal d'Ariel Buteau, et je savais qu'il était le parfait complice.
Et du coup, avec Thomas, vous travaillez comment? Est-ce que l'écriture, elle précède sa venue?
Ah oui, complètement.
Et lui, il se met dans vos pantoufles, en fait.
En fait, c'est ça. Il a une très très grande culture classique. Il aurait pu avoir de Londres, même s'il l'a pas eu d'ailleurs, le prix classique avant d'être jazzman. Donc, il fait partie des très rares jazzmen qui jouent quasiment aussi bien le classique que le jazz. Donc, il a un son complètement fou. Et donc, j'avais besoin de quelqu'un qui ait cette capacité-là, d'un immense respect de ma musique, au sens de dire, tiens, j'ai joué une petite pièce classique. Et en même temps, il fallait aussi quelqu'un qui soit capable de tout foutre par terre, de taper dans la table, de tout renverser et vraiment d'être libre dans son geste d'improvisateur. Et il a un peu, pour moi, fait le lien comme ça entre les deux.
Ouais, et à des moments où il joue, en fait, où il travaille, il se rapproche un peu du free parce qu'il cherche vraiment
Exactement.
Des sons.
Exactement.
Mais c'est pas tant que ça, en fait. Hein. C'est beaucoup. Je trouve qu'il a une qualité de son qui se rapproche de la qualité de son classique, vraiment, vraiment. Je précise, il joue de la clarinette et de la clarinette basse. Donc, oui. On a toute la palette de la clarinette basse qui donne énormément de profondeur aussi, enfin, de mon point de vue, toujours. Et vous avez d'autres projets avec Thomas?
Oui, moi j'ai envie de continuer. En fait, je voudrais faire la suite maintenant que l'album a eu une... Évidemment, c'est toujours encourageant d'avoir de beaux échos. Et c'est vrai qu'il y a eu un vrai... Il s'est passé quelque chose pour un premier album, en tout cas. Et on est très reconnaissant de ça. Donc moi, je veux continuer avec lui. Moi, je suis un grand fidèle, vous savez. Mais par contre, j'aimerais inviter une violoncelliste. Donc je ne vais pas donner son nom encore parce qu'elle n'a pas encore donné son accord. Mais... Donc il y a plusieurs candidates, mais je voudrais rajouter une violoncelliste improvisatrice de jazz, obligatoirement. Mais pareil, qui a vraiment une grande culture classique, comme ça.
Donc vraiment, poursuivre dans cette esthétique-là.
Oui, complètement.
Et du coup, abandonner complètement tout ce qui est musique de scène, j'ai vu que vous aviez fait des spectacles et tout ça, c'est du passé pour vous, pour l'instant.
Non, mais je suis vraiment ouvert à toute chose. Là, on va terminer de jouer L'île aux champs mêlés, qu'on a créé avec Marion Rampal, qui est un spectacle tout public, qui raconte l'histoire du capitaine Rampal qui cherche son île. Et il se trouve qu'elle est sur son île. Et on vient vraiment défendre l'idée du métissage des musiques, comme quoi on peut aimer la musique de la Nouvelle-Orléans ou la musique d'Hawaï sans avoir grandi là-bas. Donc moi je suis très fier de porter ce propos-là, surtout aujourd'hui, qu'il n'y a pas d'appartenance, il faut juste simplement faire très attention à comment on l'adresse, comment on le fait, mais la musique et l'art, pour moi, c'est fait pour voyager. Donc ce spectacle, pour répondre à votre question, là il s'arrête, mais il a tourné pendant 3 ans, donc il y en aura certainement d'autres. Le théâtre, non, c'est sûr que là c'est fini, mais ça a été important pendant longtemps, et j'espère... Mais là, je ne réponds plus à votre question. J'espère écrire plus pour le cinéma aussi maintenant. On verra.
J'allais y venir, voilà. Justement, si vous aviez des visées sur le cinéma.
Ah oui. Ben, c'est une espèce de rendez-vous manqué perpétuel en ce qui me concerne. Donc, je passe de la frustration à quelque chose qui maintenant me fait un peu rire. Ça ne se produit pas, mais je suis sûr que ça va finir par arriver. On me dit depuis 15 ans que ma musique est cinématographique. Et pour l'instant, à part un rendez-vous... magnifique avec une cinéaste italienne, Elena Grigio. Rien. Donc on verra. Ça arrivera, je suis sûr. Je crois qu'il y a une évidence, donc ça va bien finir par se présenter.
Ouais, mais je pense qu'on la trouve cinématographique parce qu'elle est émouvante. Hein. Je crois que c'est ça le plan. Bah ouais, je trouve que c'est ce qui sort de ce disque, en fait, hein, une fois qu'on est parti hors des cases et que ça vous représente. Je trouve que c'est ça qui ressort, en fait, de ce disque puzzle. Du coup, les grosses formations, ça ne vous tente pas? Parce que j'ai vu dans votre parcours que globalement, c'était quand même beaucoup des petites formations.
Alors il y a eu une grosse formation, c'est Tribe from the Ashes, qui a été emmenée par, c'est un collectif emmené par Sandrine Gaquet, l'extraordinaire Sandrine Gaquet, et Gidru, aussi extraordinaire et amie. Donc là on était quand même 12 sur scène, c'est une expérience complètement incroyable. Moi j'adore les grands ensembles, le problème c'est que le contexte actuel c'est dur.
C'est dur,
c'est impossible, ça coûte trop cher, c'est trop difficile. C'est vraiment un engagement il faut vraiment avoir beaucoup, beaucoup de volonté et d'argent pour pouvoir faire tourner les grands ensembles aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'à part Tribe, j'ai pas eu de beaucoup d'expérience de grands ensembles. Le plus, c'était un sextet avec Marion. On a un quintet aujourd'hui, Poetic Ways, avec Célia Camini, Raphaël Lambert, Anne Passeo, Pierre Fenichel. Mais voilà, c'est vrai que c'est pas des grandes formations. Ouais.
Et du coup, comme vous aimez mélanger les formes d'art quand même, la danse, ça vous a jamais tenté ?
Alors j'ai eu, dans une autre vie, quand j'étais étudiant, j'avais rencontré Roxane Butterfly, qui était une grande danseuse de tap dancing. Ça m'avait complètement émerveillé. J'étais trop jeune pour comprendre ce qui se passait. J'espère bien que ça arrivera un jour à nouveau, parce que oui, la danse, ça me parle.
La danse, ça vous parle ?
Ah ouais, ouais énormément. C'est extraordinaire.
Ouais. C'est vraiment... Et comment dire ? Est-ce que dans toutes les rencontres que vous avez faites, il y en a une qui est plus déterminante que les autres ? Vraiment ?
Non, mais je dirais qu'il y en a quatre.
Voilà. Quatre.
Quatre, c'est quatre points cardinaux. C'est Archie Shepp, bien sûr, Pierre Barou en chanson. Ce sont vraiment les deux mentors qui sont... Ce sont les plus anciens, mais pour moi, ce sont les plus modernes, en fait, dans leurs gestes. Moi, je trouve que c'est ça qu'on voit chez les anciens, chez les... C'est ce qu'on appelle les vieux, en fait. Ils sont d'une modernité, d'une jeunesse incroyable. Et vraiment, je le pense, très sincèrement. Et puis, il y a Raphaël Imbert et Marion Rampal. Voilà, vraiment, ce sont ces quatre grandes, grandes rencontres pour moi.
Est-ce que
qui font un peu le lien, d'ailleurs, avec tout ce que j'essaie de faire.
Et du coup, est-ce que vous pourriez détailler ? C'est-à-dire, puisque vous dites ces quatre points cardinaux, c'est-à-dire qu'il y a chacun une facette de ce que vous cherchiez, que vous avez trouvé en eux. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez détailler un peu quoi ?
Oui, tout à fait. En fait, ils se répondent par binôme. C'est-à-dire que moi, j'associe Raphaël à Archie, notamment. Attention, parce que ça se croise dans les deux sens. Mais d'abord, on va aller dans ce sens-là. Et puis, j'associe beaucoup Pierre avec Marion. C'est-à-dire, Pierre et Marion, c'est la poésie, premièrement. C'est-à-dire, c'est l'amour des mots. Aujourd'hui, Marion, elle fait de la chanson, et c'est pas péjoratif. C'est une grande, grande jazzwoman, une grande voix. Mais aujourd'hui, elle nous chante des chansons. Et notre rencontre s'est faite autour de ça, de l'amour des mots et des mélodies, et d'un accord simple, et de toute la force qui peut émerger d'une chanson, et oui, la puissance de l'adresse aussi qu'on peut donner. Par exemple, dire qu'une chanson peut avoir 3 ou 4 lectures, si elle est bien écrite, hein. Les ronds dans l'eau, par exemple, de Pierre Barou, il y a au moins 3 lectures, dont une complètement cachée qu'il n'a jamais dite. Enfin, voilà, ça, j'adore. Et c'était une révélation. Et puis, Archie et Raphaël, c'est l'endroit, mais ce n'est pas péjoratif du tout, c'est l'endroit du feu. C'est-à-dire vraiment du geste, comme les peintres, ils vont donner un coup de pinceau et vous avez une ligne comme ça, rouge, au milieu du tableau qui n'est pas absolument parfaite. Il y a une vision, il y a aussi un geste qui s'ancre dans la tradition. Alors Archie, il porte l'histoire. Mais Raphaël, il a absolument, je trouve qu'à sa façon, il porte aussi tout ça. Il vient vraiment renouveler il nous parle de la musique de la Nouvelle-Orléans, de la tradition. On est dans Poetic Ways, on joue Nina Simone. Donc vraiment la musique noire américaine. Et puis vraiment ce qu'elle contient de feu, une chose vraiment instinctive comme ça, et qui est venue vraiment, oui merci, voilà, organique c'est le mot que je cherchais absolument, c'est-à-dire dans le sens où c'est pas l'école, voilà, moi Raphaël je lui dois énormément pour ça, c'est-à-dire que je croyais qu'il voulait un truc bien propre, bien appliqué, c'est normal quand on fait les écoles, on veut bien exécuter les choses, on est là-bas pour ça, et en fait il s'est passé tout le contraire, c'était vraiment l'instant. Et avec vraiment, une dévotion à ça, qui est déroutante au début. On se dit, mais c'est pas vrai, qu'est-ce qu'on joue, qu'est-ce qu'on fait, dis-moi quelque chose, quoi. Et je savais pas. Et Archie, pareil, je pensais qu'il voulait une exécution magnifique de ses morceaux. Non, en fait, il cherche l'esprit, quelque chose qui est très au présent.
C'est la partie culture orale du jazz, quand même. C'est vraiment un autre processus de travail. Oui. Et c'est vrai que quand on vient d'une culture classique comme vous, C'est vrai qu'on a été formaté à faire quelque chose de bien écrit, de sans faute, alors que toutes ces cultures-là, elles fonctionnent justement parce que c'est des fautes sur fautes qui nous amènent à la création très clairement, quoi.
Totalement.
Et je pense que voilà, ça fait du bien hein, de se rencontrer. Je trouve que ça,
ah non, bah, écoutez,
ça amène avec... des sacrées portes en fait.
Oui, avec grand plaisir partagé. Mais oui, c'est vraiment et moi c'est vraiment venu. Voilà, vraiment, Raphaël, merci, quoi. Archie, merci, parce qu'ils m'ont vraiment bousculé à cet endroit-là. C'est-à-dire de... Non, le bel ouvrage, c'est pas forcément ce que tu crois. Et puis, voilà, et de l'autre, attention, hein, tout se recoupe, parce que Pierre pouvait vraiment avoir des accès comme ça aussi, où il refusait de faire une setlist, il me laissait lui dire qu'est-ce qu'il fallait jouer, enfin, j'étais terrifié. Enfin, c'était... Mais il le faisait vraiment toujours dans une idée qu'il voulait mettre au présent l'enjeu. Par contre, il avait un sens du soin, c'est-à-dire qu'il fallait presque le silence absolu pour que les mots, la musique devait être absolument dévouée aux mots. Et alors, quand vous arrivez en tant que pianiste, le piano, c'est infernal. C'est un musicien. Vous voyez, je fais moi aussi ma fourche langue. C'est l'empire, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un truc infernal culturellement, le piano. Et puis d'un seul coup, on vous dit, bah non, mets deux doigts, joue deux notes et écoute, quoi. Wow. Et voilà. Et donc, et Marion, qui est pareil, une grande complice de Raphaël, on s'est retrouvés tous les deux à l'endroit de la mélodie française, de l'improvisation dans la mélodie. Donc voilà, tout cet angle-là, quoi, vraiment de la musique bien œuvrée, très complexe, etc. Mais en fait, tout ça est lié. Je crois vraiment que c'est la même histoire.
Et moi, en fait, par rapport à vos histoires de juste joue deux notes et écoute, je pense qu'il y a quelque chose qui m'a frappé aussi dans votre disque, c'est l'espace.
Ah bah,
la
merci.
Notion d'espace, ben voilà, parce qu'en fait, c'est pas une logorée, il y a vraiment une sensation d'espace. Mmh. Ça me fait penser des fois au début à certains morceaux d'Edouard Binot,
ah oui.
Qui, pareil, a cette espèce de faculté de peu jouer, mais de façon... Enfin, ça, il dit des choses quand il joue. Et là, c'est pareil. Il y a vraiment un travail sur l'espace, je pense. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez pensé
comme
ça.
Ah oui, c'est pareil. C'est l'autre magnifique compliment que vous auriez pu me faire, que vous me faites. C'est que le silence, on l'entend. Et pour donner un exemple, il y a aussi Federico Mompou, la musica callada, la musique qui est silencieuse. Ce serait presque, pour moi, l'absolu en termes de ce qu'on peut essayer de viser en écriture. Ce serait cette musique-là, pour moi. C'est-à-dire... C'est dans les silences qu'on entend, en fait.
On entend la résonance de, ce, oui. de l'émotion, en fait, c'est ça qu'on entend dans le silence.
Et sinon, on la reçoit pas. Alors après, attention, hein, sur les musiques justement de feu, comme Archie, dans le Free, etc. Oulala, il y a une résonance qui est extrêmement puissante. Mais là, c'est vraiment dans le flux, voilà, vraiment dans une énergie, dans une chose massive comme ça que vous prenez. Donc c'est très fort aussi. Mais
après,
voilà, ça lui appartient.
Ce que je pense dans votre duo, c'est que, justement, parce que vous venez de parler d'Archie, c'est que le piano, on ne souffle pas dedans, quoi. Et qu'une fois que le geste, il est fait, alors que le souffle, il est modulable. Et je pense que ça permet que ça soit complémentaire. Enfin, moi, je trouve ça très complémentaire, en fait, disque-là.
Mais en fait, on m'a dit, mais t'es fou de prendre un clarinettiste avec un pianiste. Ça, c'est assez peu fait. Bon, ça reste à vérifier. Disons un peu moins que les idées classiques de duo. Mais c'est ce que vous dites là, c'est-à-dire qu'il y avait une évidence de, il fallait du souffle et de l'air et pour venir oui, donner ce que je peux pas en fait avec mon piano et donc faire une coécriture comme ça improvisée ensemble.
Eh ben, on va vous suivre. Hein. Moi, je suis toujours aussi désolée de pas pouvoir venir écouter. Mais en tout cas, l'apérophonie, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Pierre-François Blanchard. Très bon concert.
Merci beaucoup à vous.
À la technique, c'était l'incomparable Louis. Très bonne soirée à tous, on se quitte sur le titre éponyme de ce disque très personnel et magnifique, Puzzled.
Thank you. L'apérophonie. Ouais, mais c'était quoi?
L'apérophonie.
C'est quoi?
L'apérophonie.
Quoi?
Sur Campus Grenoble.
Sur quoi?
Sur le 90.8.
Ah, sur Campus Grenoble 90.8.
Oui.